Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
Bonjour, moi je suis dans le rôle des quelques grammes de finesse dans un monde de brut.
Et on ne peut pas le nier, c'est ça le problème. Et aussi avec Martin Pimentel. Bonjour Martin.
Bonjour Jérémy, bonjour Céline.
Et ben lui, c'est le monde de brut en fait.
Eh bien, en parlant de monde de brut, tournons notre attention vers les hautes sphères de l'enseignement supérieur. Céline, cette semaine, il y a eu du grabuge à Sciences Po. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, Sciences Po, c'est vu par les Français comme l'école de formation de leur élite politico-administrative. C'est dire si l'école a à la fois une réputation d'excellence et de rigueur. Une réputation qui, néanmoins, ces dernières années, s'est un peu ternie. Sciences Po, c'est notamment l'endroit où il y a eu quelques années une sorte d'hijab day qui a été proposé aux étudiants. Et face à cette tentative d'imposer un signe sexiste au cœur de ce qui doit être un lieu propice au discernement et à la liberté, la direction n'a pas souhaité, n'a pas voulu ou n'a pas su réagir. Et finalement, rien n'a été, aucune limite n'a été posée aux étudiants. Et voilà ce que ça donne quelques années après. Donc, nous étions mardi, et ce mardi, une association d'extrême gauche pro-palestinienne avait décidé d'envahir l'amphi Boutmi, qui est l'amphi principal de Sciences Po, afin de l'occuper pour dénoncer le génocide en cours à Gaza. Or, que s'est-il passé ? L'UEJF, qui est l'Union des étudiants juifs de France, qui est représentée comme beaucoup d'associations à Sciences Po, a voulu se rendre à la conférence pour voir un petit peu ce qui s'y passait. Et une jeune fille juive a donc voulu rentrer dans l'amphi occupé. Or, cette jeune fille portait un nom qui, pour les gens qui visiblement s'occupaient de filtrer les étudiants qui pouvaient entrer ou pas dans cet amphi, était un petit peu trop juive pour être acceptable, et la jeune femme aurait donc été empêchée, dans un premier temps, de rentrer dans cet amphi. La question, bien entendu, il va y avoir un débat pour dire oui, elle a été empêchée dans un premier temps, mais en fait, au bout d'un moment, elle a quand même pu rentrer, etc., etc. Le problème n'est pas là. Le vrai problème, il est symbolique, c'est que dans un lieu qui est censé être un lieu de connaissance, un lieu dans lequel une attention particulière est portée aux questions de droit comme aux questions d'histoire, pouvoir afficher qu'un génocide est en cours alors que c'est faux. Il se trouve qu'un génocide a une définition en droit et qu'on n'est pas du tout dans ce cadre-là, mais surtout faire ainsi la chasse aux Juifs est juste insupportable.
Eh bien, on a vu des scènes de révolte d'étudiants en 68. En quoi c'est différent aujourd'hui ? C'est toujours l'extrême gauche qui fait du bruit. Qu'est-ce qui distingue cette époque à laquelle nous vivons ?
Eh bien, peut-être tout simplement la volonté de susciter la haine. Et le fait que cette volonté de susciter la haine se cristallise sur un peuple juif qui a déjà été la cible de l'histoire et qui finalement a été victime du plus grand massacre que le XXe siècle ait connu. La Shoah a été un tel choc dans l'esprit des êtres humains qu'on a même inventé un crime particulier. La notion de crime contre l'humanité naît suite à la découverte du massacre à la fois industriel et parfois très artisanal de millions et de millions de Juifs, que ce soit à l'ouest comme à l'est de l'Europe. Et derrière ce massacre, il y a eu la prise de conscience de la monstruosité humaine et surtout de la monstruosité de certaines organisations politiques En fait, le massacre de masse est lié au totalitarisme. Ça n'est pas un incident de l'histoire. C'est à tel point profond qu'on s'est rendu compte, par exemple, que ça allait au-delà de la rationalité. Hitler, alors qu'il est en train de perdre la guerre, lorsqu'il doit arbitrer entre un convoi de munitions et un convoi de juifs qu'il envoie au camp de la mort, choisit de faire passer le convoi de juifs, ce qui est absolument irrationnel dans sa situation. Donc, ce qu'on voit, c'est que la Shoah est un des traumatismes les plus importants de l'histoire et qu'aujourd'hui, l'extrême gauche est en train de la retourner. Pourquoi ? Parce que tout le but de ces associations pro-palestiniennes, c'est de transformer les juifs en nazis. Autrement dit, de faire de ceux qui ont été les victimes absolues du pire crime contre l'humanité, d'en faire eux-mêmes des bourreaux. Et il serait d'autant plus impardonnable en tant que bourreau qu'ils connaissent la situation de victime. Donc ce sont, si je puis dire, des bourreaux au carré. Et là, on renforce à la fois la haine du juif, qui était déjà une haine liée à une forme de supériorité, puisqu'on ne dit pas du juif qui ressemble à un animal, racisme plus classique. On va le voir comme au contraire au-dessus de soi. Si vous voyez quelqu'un comme étant au-dessous de vous, racisme classique, finalement vous pouvez l'exploiter. Il peut vous être utile, vous le méprisez certes, mais vous pouvez en avoir besoin, ça peut être une force de travail, etc. Si en revanche celui que vous haïssez est au-dessus de vous, vous ne pouvez que le supprimer parce que son existence même vous menace. Et donc ce qu'on voit ressortir, ce sont des logiques de violence qui ciblent encore une fois les juifs, qui sont absolument inarrêtables tant j'allais dire, leur logique amène fatalement à terme au passage à l'acte. Et aujourd'hui, que ce type de discours et ce type de représentation puissent occuper les personnes soi-disant les plus brillantes et se amener à nous diriger plus tard ne peut être que terrorisant.
Si toutes ces gens d'extrême gauche ont besoin, comme vous le dites, de trouver des nazis, d'avoir leur nazi à eux, où est l'origine de cette sorte de pathologie, psychopathologie manichéenne qui veut qu'il y ait quelque part des nazis, entre guillemets, à dénoncer ?
Eh bien, c'est simple. Quand vous n'avez pas de projet positif, quand vous n'avez pas de projet tout court, il faut que vous ayez des ennemis. Soit vous pouvez proposer un chemin à un peuple, soit vous n'avez plus qu'à lui jeter des têtes. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise politique où finalement il n'y a pas de proposition politique qui soit extrêmement séduisante et qui arrive à rassembler une majorité. On voit que même le gouvernement actuel se retrouve en minorité et ne peut pas faire passer ses lois. Donc la société est extrêmement distendue et en termes de propositions politiques, vous avez très peu de projets. Ce qu'il ne reste plus que la logique accusatoire. Autrement dit, puisque vous ne pouvez pas affronter votre adversaire projet contre projet, transformez-le en monstre et demandez donc que l'on vote pour vous parce que vous êtes les protecteurs qui du cercle de la raison, qui d'un pays, qui, etc. Et c'est devenu l'alpha et l'oméga du discours politique. Le seul problème, c'est que cette logique ne peut faire monter que les conflits, les haines, les affrontements. Et au lieu de chercher ce qui nous rassemble et donc ce que nous avons en commun, on exacerbe les différences et on les rend absolument irréductibles. Et donc, du coup, accepter la discussion avec l'autre ou même simplement accepter l'autre, c'est se trahir soi-même, trahir son clan, trahir sa cause. Et c'est ne plus être respectable. Mais on voit bien que ces logiques ne peuvent mener qu'à des affrontements.
Et Sciences Po, c'est une école qui a une grande histoire derrière elle. Elle représente une sorte de fleuron de l'éducation française. Mais on l'a vu ces dernières années importer certaines des méthodes des campus anglo-saxons. Maintenant, on commence à voir les mêmes luttes qu'on voit sur les campus aux États-Unis, au Royaume-Uni. Comment est-ce que Sciences Po peut sauver son âme, en quelque sorte, son âme française ?
Alors, deux choses. Elle n'a pas fait qu'importer, j'allais dire, cette logique conflictuelle ou cette logique liée au campus des États-Unis. Elle en a importé aussi la lâcheté des directions. Autrement dit, ce que nous pouvons constater, c'est que dans cette école, on se demande bien où sont les adultes, où sont les directions, où sont les gens qui sont là pour indiquer qu'il y a des lignes rouges et pour sanctionner ceux qui les franchissent. Si on reprend la question de Sciences Po, quelque chose était franchement extrêmement choquant, c'est la rédaction en fait du communiqué de presse qui dénonce ce qui s'est passé à l'école. Tout est fait pour éviter de prononcer le mot antisémitisme. Ainsi, l'étudiante juive est devenue un membre de la communauté étudiante. Les propos antisémites ont été transformés en propos accusatoires. Et pour éviter de mentionner que l'Union des étudiants juifs de France a été ciblée, elle est évoquée en tant qu'association étudiante en particulier. Donc, on voit bien que le premier problème est la lâcheté de la direction qui n'ose pas trancher. Pourquoi est-ce que les choses ont évolué de cette manière-là ? D'abord parce que avant, Sciences Po était effectivement un fleuron universitaire. Et finalement, pour diriger ce type de grande école, il fallait être parfaitement reconnu dans son domaine, autrement dit, avoir publié des livres ou des ouvrages qui étaient des références. Et puis est arrivé un premier rajeunissement avec Richard Descoings. L'homme était extrêmement brillant, très séduisant, novateur, et il avait des idées de développement de son école, ça c'était réel. Après, c'était pas forcément l'homme qui avait révolutionné sa discipline ou écrit un livre particulièrement marquant. Mais toujours est-il que ce jeune homme arrive d'abord avec une équipe constituée où tous ont à peu près le même âge, et surtout avec un projet qui est l'internationalisation de Sciences Po. Autrement dit, il veut faire de Sciences Po l'équivalent d'un Harvard, etc. Et pour ce faire, il veut attirer énormément d'étudiants étrangers. Pourquoi ? D'abord parce que ça permet de mettre au point des statuts un petit peu différents, mais surtout on peut faire payer très cher ces étudiants-là, donc ça amène de l'argent et des ressources. Le seul problème, c'est que ça a aussi importé une mentalité qui n'est absolument pas la mentalité que nous avons ici. Et le deuxième problème est ce mythe universitaire dans lequel, à l'université, ce sont des adultes et quasiment cette université devrait être capable de s'autogérer. Tout cela est une ânerie, ça n'a jamais fonctionné, ni ici ni ailleurs. Et la seule chose que ce genre d'idéologie a abouti, ça a été à la déresponsabilisation totale de ceux qui sont en charge, justement, d'être, si on peut dire, les arbitres des élégances, et surtout à une perte extrêmement forte d'exigence. C'est-à-dire que derrière ce côté cucu la praline, finalement, un étudiant, un professeur, est-ce que l'un doit dominer l'autre, etc. Mais bien sûr, celui qui a le plus de connaissances dans un cadre universitaire est forcément plus intéressant que celui qui en a moins. Donc la chose est évidente, et d'avoir refusé finalement d'exercer leurs responsabilités. On a vu de beaux paquebots comme celui de Sciences Po aller complètement à la dérive.
Eh bien, Céline, je retiens cette phrase que vous venez de prononcer, « Où sont les adultes ?» phrase qui peut s'appliquer aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Merci, Céline.
Merci, Jérémy.
Martin, c'est maintenant à votre tour. Vous aussi, vous semblez être sous le charme de Aya Nakamura. Je plaisante. Bon, les qualités vocales de la chanteuse sont-elles proportionnellement aussi impressionnantes que le nombre d'articles et de commentaires que j'ai pu voir passer cette semaine dans les journaux et les médias français ?
Alors, Jérémy, en France, tout ne finit pas en chanson, mais en polémique. Voilà ce qu'écrivait à ce sujet Elisabeth Lévy cette semaine. Elisabeth, qui était d'ailleurs, je le signale à nos auditeurs, derrière votre micro la semaine dernière dans le podcast. Bon, à vrai dire, la polémique Aya Nakamura, on s'en serait sûrement bien passé. Un tel sujet devrait pouvoir nous passer au-dessus de la tête. Mais si les Français en ont autant parlé, c'est parce qu'évidemment, et quoi qu'en disent les plus farouches adversaires d'Aya Nakamura, il ne s'agissait pas que de critiques sur sa musique ou ses qualités vocales.
Mais sait-on si elle va chanter à la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, finalement ?
Le pire, Jérémy, c'est qu'après 10 jours de débats frénétiques sur cette question, il n'est même pas officiellement confirmé si cela sera le cas ou pas. Tout avait commencé avec une indiscrétion de l'Express qui indiquait qu'Aya Nakamura chantant Piaf serait, je cite, « une exigence secrète d'Emmanuel Macron ». Et depuis, effectivement, on a assisté à un emballement assez dingue du commentariat. Et tous les éditocrates sont de sortie pour défendre la malheureuse chanteuse franco-malienne contre le prétendu racisme de la droite identitaire qui voit ce choix d'un mauvais œil. Invitée sur France Info, hier jeudi, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, n'a pas pu confirmer sa présence à la cérémonie. Elle a indiqué que ce serait Thomas Joly qui prendrait la décision finale. Il est très woke, ce qui est mauvais signe, je vous le signale au passage. Bon, mais c'est vrai que les militants de la droite identitaire se sont effectivement déchaînés contre la chanteuse ces derniers jours. Sandrine Rousseau, très bon indicateur de cette France de gauche qui ne voit jamais plus loin que le bout de son nez, a estimé sur Twitter que, je cite, « le racisme derrière le refus d'Aya Nakamura est indécent ». Alors que selon elle, c'est une des meilleures, une queen internationale. La députée d'extrême gauche, on s'en souvient, elle avait bien sûr détesté la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec Jean Dujardin en boulanger. De son côté, l'ancien ministre Pap Ndiaye a affirmé que, je cite, « Aya est une chanteuse créative qui jongle avec la langue française comme tant d'autres. » Et selon lui, ce serait un plaisir de l'entendre au JO. Jongler avec la langue française, la dernière fois que j'ai entendu cette idée de jongler avec les mots, je crois que c'est quand la France insoumise défendait le rappeur crypto-islamiste Medine. Lors du meeting de Reconquête, dimanche dernier, le nom de la chanteuse qui était évoqué au détour d'une phrase du discours d'Éric Zemmour a été sifflé. Marion Maréchal, dans le même parti, a affirmé cette semaine sur BFM TV qu'Aya Nakamura ne chantait pas en français. Et elle a raison, je vous renvoie aux paroles étranges de Mademoiselle Nakamura. Enfin, surtout, on a pu voir sur les quais de Seine des militants du groupe Les Natifs avec une banderole sur laquelle était écrit « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. » « Il n'y a pas moyen » étant une référence à « Il n'y a pas moyen, Dja Dja », le tube de la starlette qui a été visionné 950 millions de fois sur YouTube. Après cet épisode de la banderole des militants identitaires, la LICRA a, dans la foulée, indiqué qu'elle signalait les agissements des militants au procureur de la République. Et sur Twitter, Aya Nakamura a répondu à la polémique avec son français approximatif. Elle a écrit « Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça, S.A., qui vous fait mal. » Je deviens un sujet d'État numéro 1 en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai ? Que dalle ? K-E-D-A-L. Rappelons ici qu'évidemment, une femme noire peut tout à fait représenter la France et sa culture. On se souvient, par exemple, Jérémy, du succès de Jessie Norman qui avait fait vibrer toute la France en chantant la Marseillaise pour le bicentenaire de la Révolution.
Emmanuel Macron aurait pu peut-être faire un choix plus judicieux.
Alors, selon Elisabeth Lévy, toujours, on assiste en fait, avec la volonté d'imposer Aya Nakamura lors de cette cérémonie, on assiste à une assimilation à l'envers, à une créolisation à marche forcée, cette créolisation qui nous est tant vantée par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai qu'il y a de ça. Ce serait au peuple old school de s'adapter aux nouveaux arrivants. Je rappelle qu'Aya Nakamura n'a obtenu la nationalité française qu'en 2021. Alors, pour le choix d'Emmanuel Macron, peut-être le président pensait-il bien faire en faisant appel à une chanteuse qui est effectivement populaire dans la jeunesse et connue en dehors des frontières de l'Hexagone. Mais Ce choix n'est vraiment pas malin. Le président aurait dû se douter qu'il ne ferait pas consensus. D'ailleurs, avant même la polémique sur Édith Piaf et les Jeux Olympiques, la chanteuse ne faisait pas consensus, notamment pour son sabir mi-franco-banlieusard, mi-africain. Beaucoup la trouvent d'une grande vulgarité. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, qui l'a écouté, a déclaré hier jeudi sur France 2, je cite, « Quand on regarde les textes de ces chansons, on est quand même assez loin de la représentation de ce qu'est notre pays. La chanson « Kachaka » est une ode à la levrette. » Oui, le président du Sénat a bien dit ça. Beaucoup ont indiqué qu'ils auraient préféré un choix effectivement plus consensuel. Marion Maréchal a ainsi évoqué les noms de Patrick Bruel ou de Florent Pagny.
Oui, oui, c'est plus classique.
Oui, Jérémy. Encore que, ça fait de nombreuses années que vous avez quitté votre île natale, mais quand même, avec les Français, nous connaissant, il y aurait eu d'autres polémiques aussi. La gauche aurait peut-être reproché à Florent Pagny de fuir le fisc. Et d'autres auraient peut-être reproché carrément la confession de Patrick Bruel. Sans minimiser les commentaires effectivement racistes qu'il y a pu avoir envers la chanteuse Aya Nakamura, et qui sont condamnables, cette polémique, au-delà, c'était peut-être pour beaucoup de gens un exutoire. Le corps social français dans son ensemble est en réalité assez inquiet à l'approche de ces fameux Jeux Olympiques. Des avertissements alarmants ont été entendus ça et là concernant la sécurité. D'ailleurs, les ambitions du dispositif de la fameuse cérémonie d'ouverture viennent d'être revues nettement à la baisse, alors que la guerre fait toujours rage en Ukraine ou au Proche-Orient. Et ceux qui défendent bec et ongle Aya Nakamura, désolé, mais ce sont souvent les mêmes dingos qui se réjouissent de cet événement et pensent qu'on va pouvoir aller se baigner tranquille dès cet été dans la Seine. Il faut aussi noter que le succès et le phénomène autour de Aya Nakamura s'inscrivent dans un ensemble de nouvelles manifestations culturelles ou sportives qui passionnent notre jeunesse, mais qui sont assez déplaisantes. J'ai plusieurs exemples. On a pu voir, par exemple, le succès d'une émission ultra-trash de télé-réalité qui s'appelait Frenchie Shore, où l'on suivait les aventures d'un groupe de jeunes exhibitionnistes au Cap d'Agde. C'était également très vulgaire, avec des scènes sexuelles non simulées qui étaient montrées à l'écran. À l'époque, cela avait fait réagir au gouvernement Rima Abdul-Malak, qui s'inquiétait pour notre jeunesse. Autre exemple, on a pu voir plus récemment le succès du MMA, avec des milliers de Français qui se sont pressés à Bercy le 7 mars pour voir un combat ultra-violent entre Baki et Cédric Doumbé. Et comme l'écrivait cette semaine Jean-Paul Marie dans Le Journal, c'est le nouveau média de Laurent Geoffrin, on peut aimer la boxe, apprécier les corridas, ne pas être un anti-chasse forcené et être pourtant profondément révulsé face au spectacle d'un humain encagé dans du fer qui frappe un homme à terre inconscient et lui défonce le visage entouré par une foule de Français qui hurlent « Achève-le !». Enfin, troisième et dernier exemple, il y a bien sûr l'essor de toutes ces musiques urbaines. Du temps de Jack Lang au ministère de la Culture, c'était effectivement disruptif de faire la promotion du rap, par exemple, car c'était alors effectivement une contre-culture. Aujourd'hui, c'est une culture de masse, c'est le genre musical plébiscité par les Français, c'est le genre numéro 1 sur les plateformes de streaming, malgré la misogynie ou les couplets anti-français qu'il y a dans beaucoup de morceaux. Alors dire tout ça, c'est affreusement réac, j'en conviens, mais je vous assure que de plus en plus de gens trouvent ces phénomènes liés à la mondialisation très déplaisants, et ce ne sont pas tous des réacs ou l'extrême droite qui pense ça. Avec Aya Nakamura au JO, on peut extrapoler et dire que le projet universaliste porté par la France en prend aussi un coup. D'ailleurs, la France n'est pas à l'aise dans la mondialisation, et je pense que ce n'est pas raciste de dire cela.
Donc, Martin, on oublie Aya Nakamura pour les Jeux Olympiques ?
Alors, nous n'avons malheureusement pas vraiment notre mot à dire, comme je vous le disais, Jérémy, puisque c'est le très woke Thomas Joly qui décidera, au final, si j'en crois, la ministre. Espérons au moins que, quel que soit son choix final, la langue française puisse être respectée. Parce qu'il est légitime que les Français historiques se reconnaissent dans la chanson qui sera interprétée devant les spectateurs du monde entier. Avec la polémique Aya Nakamura cette semaine, on a eu droit en quelque sorte à un nouvel épisode de cet affrontement entre la France Médine et la France Sardou que Causeur mettait en une du magazine en septembre dernier. Mais comme l'écrivait Frédéric Magellan en conclusion d'une grande enquête sur la sécurité des JO, cet épisode est surtout venu nous rappeler que c'est la première fois que les Jeux Olympiques vont être organisés dans un pays qui ne s'aime pas.
Merci Martin, et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.